Chapitre 35. Le presbytère d'Annebault est une des plus vieilles maisons du pays. Il date du XVe siècle et il se montre aujourd'hui à peu près tel que l'ont laissé ses constructeurs. Lorsqu'on arrive sur la place de l'église, on se trouve devant un mur de clôture en silex et en grison. Derrière ce mur est un grand jardin potager, plein de vieux arbres fruitiers tortueux et noueux, dont les espèces antiques sont décrites dans le Seminarium et Plantarium Fructiferarum Arborum de Charles Estienne. Puis, au bout de ce jardin, divisé en quatre carrés par des pierres tombales servant d'allées, se dresse la maison curiale elle-même, avec sa large façade aux fenêtres vitrées de petits carreaux verts en cul de bouteille, ses murs noircis par le temps et ses combles rapides dont les tuiles disparaissent sous les mousses et les lichens. Dans le mur, qui borde un des côtés de la place de l'église, s'ouvrent deux portes cintrées, l'une cavalière, l'autre piétonnière. En arrivant devant la porte piétonnière, Clémence descendit de cheval et, ayant attaché sa monture, au moyen de la bride, nouée dans un anneau fixé au mur, elle entra dans le jardin. Jamais ces vieux arbres, devant lesquels tant de générations avaient défilé, n'avaient vu passer une femme vêtue d'une robe longue, relevée par la queue. Jamais leur feuillage n'avait été cinglé par une cravache tenue dans une main finement gantée. L'abbé Guillemite était dans son cabinet, en train d'écrire le rapport qui devait être lu à la prochaine réunion des actionnaires de la serrurerie artistique, lorsqu'on annonça Madame Beaujonnier. Il posa sa plume et s'interrompit avec une sérénité parfaite. C'était là, en effet, une de ses qualités. Toujours maître des sujets multiples qu'il occupait, il pouvait quitter et reprendre son travail sans impatience comme sans fatigue. N'ayant pas vu Clémence depuis que celle-ci avait été à Bagnoles, il lui demanda tout d'abord si elle avait été satisfaite de ce voyage dont on lui avait parlé. Il lui demanda tout d'abord si elle avait été satisfaite de ce voyage dont on lui avait parlé. « Aussi peu satisfaite que possible, car j'ai acquis la preuve, non pas précisément pendant ce voyage, mais à mon retour, que Denise refuserait malgré tout de se conformer au désir de Monsieur le Marquis. Mais cette preuve n'est nullement établie pour nous, et nous avons tout lieu d'espérer, au contraire, que ses désirs seront réalisés dans un avenir assez prochain. » « Si vous parlez ainsi, c'est que vous ne savez pas tout ce qui se passe dans votre couvent, monsieur le curé, et que votre surveillance ou celle des personnes en qui vous avez confiance est en défaut. Je ne crois pas. Cependant, je puis vous affirmer que depuis que Denise est à Sainte-Rutilly, elle a correspondu avec monsieur Méraud. C'est impossible. Elle a reçu une lettre de monsieur Méraud et elle lui a répondu. Je vous ai affirmé, madame, que c'était matériellement impossible. Vous avez été trompée par de faux rapports. Notre preuve ne résulte pas de rapports plus ou moins fidèles, mais bien du corps du délit lui-même. Monsieur le marquis a eu entre les mains la lettre écrite par Denise. Et vous ne m'avez pas envoyé cette lettre ? À quoi bon ? Comment à quoi bon ? Enfin, je vais faire une enquête, je vais chercher et je vais trouver comment cette correspondance a pu s'engager. Il faut que tout cela soit découvert, car cela est extrêmement grave pour nous, pour moi. Il y a là un fait de négligence qui sera puni comme il doit l'être. Si ceux qui avaient été coupables de cette négligence avaient pu entendre l'abbé Guillemite, ils auraient tremblé. À la façon dont ses lèvres pâlies s'étaient crispées quand il avait parlé de punir, il était certain que cette punition serait exemplaire. Si je vous ai répondu tout à l'heure « à quoi bon ?» quand vous me parliez de vous communiquer cette lettre, continua Clémence, je pensais seulement à l'avenir. Il est évident, en effet, que cette lettre a exercé une influence déterminante sur Denise. Pour moi, il est à peu près certain que si Denise n'avait pas été entraînée par M. Méraud, elle eût suivi sa vocation religieuse. Avec les excitations qui lui sont venues du dehors, il est assez naturel qu'elle n'ait pas persisté dans cette vocation. Mais enfin, ce qui est fait, et il n'y a pas à revenir là-dessus. Denise ne sera pas religieuse, elle épousera M. Méraud. « Ah, vraiment ? » interrompit l'abbé Guillemite en regardant attentivement Clémence. « Que vouliez-vous que fît M. le marquis ? » continua-t-elle. Malgré tout son désir de voir Denise se faire religieuse, il n'a jamais eu la pensée de la violenter. Il n'est pas son père et les droits qu'il a sur elle vont bientôt prendre fin. Elle épousera donc M. Méraud si, à sa majorité, elle est encore dans les mêmes idées. Seulement, ce que M. le marquis voulait faire pour elle ne se fera pas et la dot, la grosse dot, qu'il voulait lui donner, sera employée à un autre usage. Elle la retrouvera dans la part d'héritage qui reviendra un jour à M. Méraud. Je ne crois pas. Où voulait-elle en venir ? C'était la question que l'abbé Guillemite se posait depuis le commencement de cet entretien, sans arriver à la résoudre d'une façon satisfaisante. La seule chose certaine pour lui était que tout cela devait avoir un but déterminé. Lequel ? De ce qu'elle avait dit, il résultait que Denise épouserait Louis Méraud lorsqu'elle aurait atteint sa majorité et que celui-ci n'aurait probablement pas la part d'héritage que la loi lui accordait. Si ces deux points ne lui permettaient pas de se reconnaître sûrement, ils étaient cependant des indices auxquels il fallait faire attention. « Alors, dit-il en la regardant bien en face, vous venez chercher Denise ?»« Mais pas du tout. L'intention de Monsieur le Marquis n'est pas de la reprendre. Au contraire, il désire que vous la gardiez jusqu'au moment de son mariage. » « Oh, désolé, s'écria-t-il, véritablement désolé d'avoir à traiter une pareille question avec vous. Que monsieur le marquis s'imagine que je dois être tout disposé à garder sa filleule, cela se comprend jusqu'à un certain point. Mais vous, madame, pouvez-vous penser qu'il me soit possible de garder, dans une maison telle que le couvent de Sainte-Rutilie, une jeune fille qui entretient une correspondance amoureuse avec son fiancé ? Il tenait ses yeux attachés sur le visage de Clémence, et bien que celle-ci fût ordinairement maîtresse de ses impressions, elle n'avait pas pu cacher un léger mouvement de surprise quand il avait parlé de renvoyer Denise. Cela avait suffi pour qu'il comprît qu'elle voulait que Denise restât au couvent. Et alors, il avait insisté sur l'obligation qui lui était imposée de ne pas la garder. C'était une brebis galeuse, et puis, de notre côté, le scandale. Enfin, il fallait qu'elle sortît de Sainte-Rutilie. Clémence, revenue de sa première impression, le laissa aller, et ce fut seulement quand il se tut qu'elle prit la parole. « Je ne saurais vous exprimer combien ce que vous me dites là, monsieur le curé, me désole, car votre résolution, si elle est irrévocable, va déranger toute une combinaison que je venais vous annoncer et pour laquelle, je puis l'avouer, j'ai fait le voyage d'Annebeau. Je vous ai dit tout à l'heure d'une façon incidente un mot auquel vous n'avez peut-être pas fait attention et que, dès lors, je dois vous rappeler, c'est que M. Louis Méraud ne sera pas l'héritier de M. le Marquis. » Sans répondre, l'abbé Guillemite prit un air étonné qui pouvait signifier tout ce qu'on voulait. En voyant comment M. Méraud avait agi envers Denise, continua Clémence, M. le Marquis, indigné, exaspéré, s'est fâché avec son jeune cousin, et si bien fâché qu'il a annoncé hautement sa ferme volonté de le déshériter. En même temps, et pour être bien certain que M. Méraud ne recueillerait pas un jour sa fortune d'une manière indirecte, il a résolu de laisser cette fortune à une personne étrangère. Toute sa fortune ? La plus grande partie au moins. Il n'y a rien là de surprenant pour qui réfléchit, car ce qu'il laisserait à Denise reviendrait à M. Méraud quand celle-ci se marierait, et ce qu'il laisserait à M. de Carquebus reviendrait encore à M. Méraud lorsque celui-ci hériterait de son oncle. Dans ces conditions, M. le Marquis veut pour légataire une personne étrangère, ou plus justement, il a l'idée de choisir une personne étrangère, car sa volonté n'est point encore définitivement arrêtée. Mais tout en laissant la plus grande partie de sa fortune à cette personne, il entend faire d'autres legs. C'est ainsi, monsieur le curé, qu'il a pensé à vous.
À moi ?
Mon Dieu, oui, et je dois vous dire que j'ai autant que possible appuyé cette idée qui tout d'abord était chez lui assez vague. Je venais donc vous demander à laquelle de vos fondations pieuses, votre église ou votre couvent, vous désiriez que monsieur le marquis de Rudemont laissât un legs. Le prêtre resta assez longtemps sans répondre, regardant Clémence de ses yeux perçants. Puis enfin, d'une voix nette, « Je vous suis vivement reconnaissant, dit-il, de vos intentions charitables, mais j'ai le regret de ne pouvoir vous désigner ni l'une ni l'autre de ces fondations. Autant je suis heureux des libéralités qu'on veut bien nous faire de la main à la main, autant je suis peu disposé à accepter celles qui doivent n'avoir leur effet qu'après la mort. Un testament est presque toujours matière à procès, et je ne veux pas de procès, je ne veux même pas figurer dans un procès. Si monsieur le marquis veut bien prendre dès maintenant sur sa fortune une somme quelconque pour enrichir notre couvent ou notre église, je l'accepterai avec une profonde gratitude. Si, au contraire, il me laisse cette somme par un testament, je la refuserai.